Et on débute les matins avec, par exemple, le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Une campagne de vaccination sans précédent devrait commencer en Italie fin janvier contre le Covid-19. Annonce faite hier, alors que les membres du G20 promettent de faire tous les efforts nécessaires pour garantir l'accès au vaccin.
Et puis au Burkina Faso, le camp du président sortant évoquait dès hier une possible victoire de Roch Kabore dès le premier tour de l'élection. Nous irons sur place avec notre envoyé spécial.
Nicolas Sarkozy, comparé à partir d'aujourd'hui dans l'affaire des écoutes, l'ancien président de la République est jugé pour corruption. Un procès très attendu, on vous explique.
Alors ça ne sera pas un crime mais plutôt un délit d'écocide, le gouvernement l'a annoncé hier, ce qui ne satisfait pas tous les défenseurs de l'environnement.
Et ce délit vise à sanctionner les atteintes graves à l'environnement. Et après ce journal, la question du jour, Guillaume Erner, ce matin votre question du jour portera sur...
Cette question du jour sera consacrée au transport aérien, peut-il changer de modèle? Et mon invité sera Marc Ivaldi, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales.
Les dirigeants du G20 ont promis hier de ne reculer devant aucun effort pour garantir un accès abordable et équitable aux vaccins contre le Covid-19. Une déclaration surtout symbolique. La chancelière allemande Angela Merkel se dit inquiète de la lenteur des avancées. Le sommet des 20 plus grandes puissances économiques s'est tenu en ligne ce week-end. De son côté, l'Italie ne perd pas de temps. Un appel d'offres sera lancé aujourd'hui pour acheter des aiguilles et des seringues. Tout doit être prêt pour vacciner la population au plus vite. Le gouvernement pense pouvoir le faire dès la fin du mois de janvier. À Rome, Bruce de Galzin.
Il table déjà sur 1,7 million de personnes vaccinées d'ici à peine 2 mois. Le responsable de la gestion de la crise sanitaire estime que les doses de vaccins de Pfizer pourront être livrées mi-janvier. Les personnes âgées en maison de retraite et le personnel soignant seront alors prioritaires. Et puis viendront les plus fragiles et le reste de la population, explique Domenico Arcuri.
Je peux dire que selon nos prévisions, une partie importante de la population pourra être vaccinée d'ici au troisième trimestre de l'année prochaine. Mais pour cela, il faut que les processus d'autorisation des vaccins soient menés à bien. Et il faudra voir si tous les Italiens voudront se faire vacciner.
Et pour l'instant, les Italiens doutent. Selon les derniers sondages, 40% préfèrent attendre d'être sûr de l'efficacité du vaccin. Cela n'empêche pas le gouvernement de mettre en place son plan, qui passera devant le Parlement, un plan de distribution, de conservation dans le froid et d'administration du vaccin. Pour cela, le ministre de la Défense a déjà dit que l'armée était disponible. Une plateforme informatique devrait aussi enregistrer les coordonnées, le nom et l'endroit où les personnes ont été vaccinées.
Bruce de Galzin, les États-Unis espèrent entamer leur campagne massive de vaccination avant la mi-décembre pour atteindre l'immunité collective en mai prochain. Notez que nous reviendrons sur l'accès aux vaccins et les promesses faites pendant le sommet du G20 avec Camille Magnard dans sa revue de presse internationale à 7h35. Si Donald Trump occupe toujours la Maison Blanche, Joe Biden va commencer à dévoiler dès demain ses premiers choix pour son gouvernement. Le candidat démocrate est sorti vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre dernier. Donald Trump refuse de reconnaître sa victoire et a appelé hier le parti républicain à se battre pour ne pas laisser les démocrates détruire les preuves de ce qu'il estime être une fraude. Les accusations de fraude ne sont en aucun cas vérifiées. Les électeurs au Burkina Faso étaient appelés à voter hier pour leur futur président et leurs députés. D'après la commission électorale du pays, environ 300 000 personnes n'ont pas pu voter à cause des menaces sécuritaires. Plusieurs régions sont en proie à des attaques djihadistes. Le président sortant, Roch Kabore, élu en 2015, semble favori. Et dès hier soir, il allait parler de victoire, mais s'est ravisé, préférant attendre les résultats officiels. À Ouagadougou, Nathanaël Charbonnier.
La fête a presque eu lieu au siège du parti du président sortant, le MPP.
Hakuna.
Vers 23h, le directeur de campagne annonçait la venue de ce champion, Roch Kabore, et se risquait même à évoquer une victoire possible dès le premier tour.
Les tendances qui se profilent démontrent que notre souhait de faire un coup KO, ce souhait là-bas, s'accomplit.
Mais voilà, les dieux de l'élection en avaient visiblement décidé autrement, notamment à la télévision, où le débat portait sur les soupçons de fraude. Cartes d'électeurs achetées, bureaux de vote fermés aux électeurs... l'opposition mettait la pression sur la bonne tenue du scrutin.
Nous pensons que les Burkinabés ont été privés de leur droit, en tout cas de pouvoir s'exprimer. Il y a eu quand même un peu de remue-ménage, c'est qu'on pourrait appeler un peu de fraude.
Des doutes de l'opposition qui auront eu raison de la détermination du parti au pouvoir, qui raisonnablement décidé d'abréger quelques heures plus tard la fête, sans pour autant entamer la joie de ses militants.
J'étais venu pour danser pour la victoire de mon candidat. Donc on attend demain, Inch'Allah, on va venir danser.
Et l'annonce des résultats pourrait tomber ce lundi soir.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Margot Delpierre. Un ancien président de la République est jugé pour corruption.
Nicolas Sarkozy comparaît à partir d'aujourd'hui à Paris avec son avocat Thierry Herzog et l'ex-haut magistrat Gilbert Azibert. La justice soupçonne un pacte de corruption entre ces hommes dans le cadre du dossier Bettencourt via une ligne de téléphone secrète. Cette affaire, dite des écoutes, a déjà fait l'objet de multiples recours par la défense des trois prévenus. Les avocats chevronnés qui vont officier pendant 3 semaines pourraient s'engouffrer dans les plaies laissées par l'affaire des fadettes, c'est-à-dire des relevés téléphoniques, Anne Fauquemberg.
La vraie voyoucratie, c'est de viser les plus grands avocats du barreau de Paris pour se payer Sarkozy. Il y a 10 jours, dans une interview télévisée, l'ex-président Sarkozy n'a pas hésité à rappeler l'enquête préliminaire controversée qui a permis, pendant plusieurs années, d'éplucher les fadettes de ténors du barreau comme Éric Dupond-Moretti, aujourd'hui ministre, ou Hervé Temim et Jacqueline Lafont, qui plaideront dans le procès qui s'ouvre aujourd'hui. Cette affaire dans l'affaire était censée permettre au parquet national financier de trouver la taupe qui renseignait Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog, son avocat, pour leur dire qu'ils étaient sur écoute. Elle fait l'objet d'une enquête de l'Inspection Générale de la Justice. Pour Céline Parizeau, la présidente de l'Union Syndicale des Magistrats, maintenant, justice doit être rendue sereinement.
Pour moi, à partir du moment où on applique une procédure qui est prévue par le Code de procédure pénale et qui est légale, je ne vois pas en quoi il s'agit d'un scandale. Si les avocats ne sont pas contents que, effectivement, on puisse demander leurs fadettes qui ne sont pas particulièrement protégées par le Code de procédure pénale, alors ils s'adressent aux législateurs et ils demandent une réforme sur ce point.
Les syndicats de magistrats ont écrit au Conseil supérieur de la magistrature, garant de leur indépendance. Ils s'inquiètent que ces attaques contre les juges d'instruction aient été reprises par le président du Sénat, Gérard Larcher, et le chef des députés Les Républicains, Christian Jacob. Des personnalités qui, pour leur argumentaire, s'appuient aussi sur le retrait surprise des accusations d'un des témoins clés de l'affaire dite libyenne. Le CSM rappelle que l'indépendance juridictionnelle des juges est une condition essentielle de l'état de droit.
Anne Fauquemberg. Un délit d'écocide sanctionnera bientôt les atteintes graves à l'environnement. Les ministres de la Transition écologique et de la Justice l'ont annoncé hier. Mais ce n'est pas suffisant selon des militants et des associations qui auraient préféré un crime plutôt qu'un délit. La définition est beaucoup plus forte. Pour Annie Thébault-Mauny, toxicologue et directrice de recherche honoraire à l'INSERM, le délit n'est pas à la mesure de l'enjeu.
Sous le terme d'écocide, je crains qu'on ne sache pas très bien ce qui est mis. Donc là, il y a une première imprécision grave. La deuxième chose, c'est que le délit ne signe absolument pas d'un point de vue juridique ce qui est en train de se passer actuellement, que nous nous désignons plutôt comme relevant d'un crime industriel. Parce que les industriels qui ont décidé de la production d'amiante, qui ont décidé l'organisation productive des mines et de leur fermeture, les carences qui ont été mises en évidence pour Lubrizol, mais c'est aussi le cas d'AZF, toutes ces situations sont des situations dans lesquelles des industriels savaient ce qu'ils faisaient, savait qu'il y aurait des conséquences sanitaires et environnementales graves. Et à dessein, je ne veux pas les séparer parce que une catastrophe environnementale est d'abord une catastrophe sanitaire. Et cette catastrophe sanitaire, elle touche en première intention les travailleurs des sites et que le délit n'est pas à la mesure de ce qui est en jeu, c'est-à-dire le consentement des industriels aux conséquences de leur production. Moi, je dis le permis de tuer.
La toxicologue Annie Thébault-Mauny, des propos recueillis par Sarah Ders. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, s'est justifié. Il a expliqué que le mot « crime » posait un problème de constitutionnalité. Par ailleurs, un deuxième délit de mise en danger de l'environnement devrait aussi voir le jour. Emmanuel Macron s'exprimera demain à 20h. Un déconfinement semble exclu, mais le président de la République pourrait évoquer des assouplissements concernant les restrictions liées au reconfinement. L'anosmie, c'est la perte de l'odorat. Les personnes affectées par le Covid-19 l'ont parfois expérimenté sur des durées plus ou moins longues. L'odorat, on peut le perdre aussi en partie seulement quand on porte un masque. Face à la crise sanitaire, l'industrie du parfum pourrait s'adapter. Certains parfumeurs envisagent déjà d'intégrer de nouvelles notes olfactives, Maïwenn Bordron.
Difficile de sentir un parfum à travers un masque, on pourrait donc penser qu'une des premières réactions des créateurs serait d'accentuer les notes puissantes des parfums pour les rendre encore plus perceptibles. Ça ne sera pourtant pas le cas, selon Arnaud Guggenbühl, il est directeur marketing en parfumerie fine pour la maison de composition Givaudan.
Si on part dans une idée de course à la puissance, les gens vont finir par s'intoxiquer chez eux quand ils se parfumeront et on risque d'avoir un effet contraire, c'est-à-dire que pour finalement contrer une absence d'odeur potentielle liée au masque à l'extérieur, on risque de créer finalement des espèces de bombes olfactives pour les gens qui vont les porter eux-mêmes.
Pas de notes plus puissantes donc pour les parfums, mais des effluves plus naturelles selon François Demachy, le nez de Dior.
Des notes florales par exemple, des notes qui fassent rêver, qui fassent voyager, des notes salées entre guillemets qui rappellent la plage et la mer. Toutes ces notes qui nous permettent de nous transporter ailleurs.
Face à chaque crise, les parfums sont amenés à suivre de nouvelles tendances car ils s'adaptent à la société. C'était déjà le cas dans les années 80 avec l'épidémie de sida, comme le rappelle Eugénie Briot, docteur en histoire et spécialiste de l'histoire du parfum.
Cette épidémie de sida, elle a ancré les besoins des consommateurs, les aspirations, dans quelque chose qui allait beaucoup plus vers un désir de propreté, d'hygiène, qui va jusqu'à presque l'asepsie dans certains cas.
Dans les années 90, dans une société toujours marquée par l'épidémie de sida, Calvin Klein lance ainsi son parfum CK1 avec des notes qui évoquent le frais et le propre.
Maïwenn Bordron. Météo France prévoit un temps nuageux, parfois pluvieux dans le nord du pays. Aujourd'hui, du soleil dans une large moitié sud. Comptez cet après-midi 6 degrés à Lyon, 7 à Mulhouse, 11 à Rennes et Paris, 14 à Perpignan et 15 degrés à Ajaccio, Guillaume.
Merci beaucoup Madame Delpierre. Il est 7h12 sur France Culture. Dans quelques instants, la question du jour, le transport aérien peut-il changer de modèle ?